France Info.
Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et historien agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Notamment, vous êtes l'un des visages de l'émission C'est politique sur France 5, l'un des visages aussi du grand face-à-face sur France Inter. Vous êtes aussi l'auteur de Poutsy, le pianiste d'Hitler et les vies rêvées de la baronne d'Oettingen. Vous êtes actuellement en tournée. Ça, c'est quelque chose qui vous tenait vraiment particulièrement à cœur. Vous serez d'ailleurs le 4 octobre à Châtenay-Malabry. On va en parler. Vous publiez aussi La Conspiration, un nouveau roman paru aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui fait froid dans le dos. D'autant plus quand on sait au combien vous aimez soigner la précision des faits. Malheureusement, réel et les détails des différents personnages qui ne sont pas issus de votre imagination mais bel et bien issus de la vraie vie. Vous démarrez le livre avec un décor glaçant, celui d'une foule qui scande et qui lève le bras avec le nom du Führer. Dès les premières lignes, nous sommes plongés dans une ambiance qu'on peine à se remémorer et par moments, nous aimerions que notre mémoire nous fasse défaut, ce qui nous permettrait de croire que certains pans de l'histoire ne se reproduiront jamais. Oui, dans votre roman, Hitler semble ne pas être loin. Quand le roman débute, d'ailleurs, nous sommes le 17 mai 1934 au Madison Square Garden, donc en plein cœur de New York, après qu'Hitler ait été nommé finalement chancelier d'Allemagne. New York semble loin du Reich Führer, Thomas. Et pas du tout. Vous avez décidé de nous dépeindre l'Amérique des années 30, avec l'élection de Franklin Delano Roosevelt, que beaucoup d'hommes influents n'ont pas vu venir. Et l'urgence pour ces mêmes banquiers, riches industriels et généraux humiliés, d'élire un remplaçant plus enclin à nourrir leur attirance pour le fascisme, le nationalisme et le nazisme venu d'Europe. Son nom, Semele Butler, le général du corps des marines des États-Unis. Au centre de cet ouvrage, il y a effectivement une cible, Roosevelt, il y a une obsession, les juifs, et il y a une méthode, un complot, un coup d'état, celui de renverser en fait le pouvoir et surtout la démocratie américaine. Ça semble être un scénario de film, Thomas, et en fait pas du tout, c'est issu vraiment de la vraie vie.
Oui, c'est un événement méconnu et c'est pas par hasard que c'est méconnu. Ça a été oublié, lessivé par l'histoire, par la Seconde Guerre mondiale, par en effet l'Amérique qui a sauvé les démocraties européennes, et on a oublié comment dans les années 30, l'élection d'un démocrate, Franklin Delano Roosevelt, qui voulait faire payer les riches, les très riches, je le dis avec le sourire, parce que ça renvoie aussi à nos débats franco-français d'aujourd'hui, qui a ciblé les banquiers. Vous savez, Roosevelt, quand il arrive au pouvoir en 33, il lance une commission d'enquête pour cibler les responsables de la crise de 29. Il va faire défiler les grands banquiers, les JP Morgan et les autres. Il va revenir sur le gold standard. Bref, il va prendre des décisions. Il va augmenter les impôts massivement. Il va prendre des décisions qui vont d'abord toucher très très fort au portefeuille de ces milliardaires-là. Et puis, il va générer une ambiance que ne supportent pas ces gens-là, faite de progressisme, d'aide aux plus pauvres, de solidarité, de considérer que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est des mots même de Roosevelt. Et un petit groupe de banquiers, d'industriels, milliardaires, vont avoir cette idée folle, mais ô combien actuelle aujourd'hui aussi, d'organiser un coup d'État fasciste aux États-Unis. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais l'histoire l'a largement oublié.
Finalement, il y a trois destins abordés dans cet ouvrage. Il y a le destin de Roosevelt, il y a le destin de Butler, et il y a le destin de l'Amérique, donc de la démocratie. Là, on touche à ce qu'il y a de plus essentiel.
Oui, bien sûr. On touche à l'essentiel qui est le respect du vote. On a vu dans l'Amérique d'aujourd'hui comment le 6 janvier 2021, des gens ont tenté de faire un coup d'État, de prendre le Capitole, appelé par Donald Trump pour le faire. Il y a des réminiscences permanentes. Et effectivement, la question de respecter le vote, que la démocratie sociale puisse exister, tout ça, évidemment, c'est au cœur des valeurs américaines. Et il y a en plus tout cet antisémitisme qu'on n'a pas encore évoqué, mais très puissant de la part de ces banquiers-là. Les banquiers juifs ne font pas partie de ce complot. C'est vraiment les banquiers dits WASP, White Anglo-Saxon Protestant, qui appellent Roosevelt Rosenfeld entre eux, parce que pour lui, c'est comme un juif, qui déteste son principal conseiller, qui est Bernard Barouche, qui est juif, qui appelle le New Deal, le programme politique de Roosevelt, le Jew Deal juif. Donc il y a tout un mélange et il voit en effet avec fascination ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ce qui est marrant, peut-être inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens chez nous voient avec fascination ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Là, c'est l'inverse. C'est ils voient en Europe le fascisme prendre pied et ils se disent, c'est pas si mal peut-être parce que ça génère de l'ordre et l'ordre, c'est bon pour le business.
C'est marrant comme on a tendance à oublier finalement le passé. Là, on replonge, vous nous prenez par la main. C'est vrai que l'écriture, elle est vraiment directe. Elle pose le décor sombre de cette triste Amérique des années 30, alors qu'on a toujours l'impression que l'Amérique a toujours été, entre guillemets, joyeuse. Là, on est face à des chiffres qui nous figent. Un Américain sur quatre était au chômage, 750 000 vétérans se sont battus lors de la Première Guerre mondiale aux côtés de la France, notamment, et ont combattu avec bravoure. Vous écrivez « Le monde des possédants était petit, celui des dominés immense ».
Oui. C'est les années 30, c'est la crise de 29. Steinbeck l'a raconté avant, mais on est dans les années 30 du crack, effectivement, financier, mais aussi de la crise économique. Le livre s'ouvre après cette scène inaugurale au Madison Square Garden que vous avez rappelé. Elle s'ouvre avec tous ces vétérans qui vont arriver devant la Maison Blanche parce qu'ils demandent juste un bonus
d'un dollar
pour survivre. Et les élus américains leur ont dit « Non, vous les toucherez en 45 seulement ». 45, on pensait pas qu'il y aurait la guerre, hein. Mais on s'est dit, voilà, dans quelques années seulement. Donc pour eux, ils veulent survivre. Et donc c'est des gens qui arrivent, imaginez, c'est une bande de soldats qui ont été héroïques pendant la Première Guerre mondiale et qui arrivent avec des vêtements trop grands pour eux parce qu'ils sont tellement maigres, ils arrivent avec leur famille. Et c'est ce contexte-là qui rappelle aussi un peu ce qui se passe en Europe, un ressentiment des soldats qui considèrent qu'on les a oubliés, sur lesquels ces braises-là, c'est sur ces braises-là que vont souffler ces agents du désordre que sont ces milliardaires qui se disent, tiens, ces gens-là, là, est-ce qu'ils peuvent pas faire comme en Europe, servir peut-être d'une base extraordinaire à une révolution fasciste ou fascisante, en tout cas autoritaire. Et donc on a effectivement ces années 30 avec cette violence, cette misère, cette véritable misère, elle traverse des deux côtés, elle va être instrumentalisée par les possédants.
Le seul remerciement qu'on va leur formuler à ces vétérans, c'est un remerciement effectivement d'avoir sauvé la démocratie, mais on se rend compte à quel point la démocratie, elle est à la fois très solide, Thomas, mais en même temps très fragile.
Ah oui, j'ai commencé à écrire ce livre et à y penser bien avant la réélection de Donald Trump, bien avant. J'y ai pensé depuis très longtemps parce que je connais cet événement depuis longtemps, et c'est que le 6 janvier 2021, je me suis dit, tiens, il y a une réminiscence parce qu'on craignait qu'en 1932, les vétérans marchent sur le Capitole de la même manière. Donc, il y a eu des réminiscences. Et puis, moi, je me suis dit, avec l'élection de Donald Trump, donc après l'écriture de ce livre, je me suis rendu compte à quel point une démocratie est fragile et qu'elle dépend, en fait, de ceux qui y croient. La démocratie, en fait, c'est un peu comme l'amour. C'est-à-dire que c'est seulement si on y croit qu'elle existe. Alors, bien sûr, il y a des contre-pouvoirs, bien sûr, il y a des institutions, mais on se rend compte à quel point l'état de droit est fragile si des gens décident de ne plus y croire. Et dans les années 30, peut-être aujourd'hui, mais dans les années 30, c'était très très puissant aux États-Unis. Chez nous aussi. Mais aux États-Unis aussi, des gens qui ne croyaient plus en la démocratie. Ça veut dire quoi, ne pas croire en la démocratie? C'est-à-dire ne pas croire dans sa promesse d'égalité, de liberté. Quand on commence à plus y croire, eh ben, elle n'existe plus. C'est pas qu'une question de croyance, je veux pas dire ça, mais quand même, c'est beaucoup de ça. En tout cas, ça raconte la fragilité de la démocratie hier comme aujourd'hui, oui.
Ça montre aussi ce qui est essentiel, ce qui est notre base, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ouais. La fraternité, elle n'existe pas du tout quand on parle de pouvoir, finalement. L'essentiel, c'est de garder son précaré, de le conserver. Et effectivement, cette fascination pour le nationalisme et donc pour le nazisme fait froid dans le dos. Ces riches industriels, banquiers, ces personnes qui sont issues du Wall Street, en fait, montrent à quel point... il n'y a effectivement pas de possibilité pour les petits de s'en sortir et à quel point effectivement ils sont capables d'écraser, de tuer des gens pour pouvoir conserver ce qu'ils possèdent.
Oui, avec l'idée que, vraiment c'est l'idée importante et je crois qu'elle court jusqu'à aujourd'hui, l'ordre fasciste, mais l'ordre est le meilleur outil pour faire du business. Le désordre, c'est dangereux. Donc, ces gens-là, assez pragmatiquement, même s'ils sont assez fascinés en fait par les pouvoirs autoritaires, sauf qu'ils considèrent que Roosevelt est un dictateur, donc pas n'importe quel pouvoir autoritaire, un pouvoir autoritaire de droite, avec des commandes publiques. En fait, c'est des gens qui font un fric dingue en Italie et en Allemagne à l'époque. General Motors gagne beaucoup de sous avec le fascisme mussolinien. Ils font du business dans ces pays-là. Et donc, ils se disent, ce qui est vrai chez eux, pourquoi ce serait pas vrai chez nous? Ils se le disent depuis longtemps. Dès 1922, quand Mussolini prend le pouvoir, on a dans les années 20 des industriels qui pensent ça. Mais c'est l'arrivée de Roosevelt au pouvoir qui braque à gauche, où ils vont se dire, attendez, c'est pas qu'un modèle ce qui se passe en Europe, c'est ce qu'on doit faire chez nous. Et donc, ils vont fomenter ce truc dingue, qui est ce que j'appelle la conspiration, c'est du livre, mais c'est vraiment une espèce de forme de conspiration qui va aller très 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 loin, et qui, je crois, aurait pu réussir.
Le fil rouge, finalement, c'est ce général Butler. Ouais. C'est étonnant d'ailleurs, c'est incarné celui de l'Amérique profonde, un homme considéré encore aujourd'hui comme un héros, défenseur des vétérans, effectivement, une période où tout le monde les conspuait, où on disait d'eux qu'il était des clochards, lui, il va commencer à les respecter, effectivement. Et en face de lui, il y a la famille Dupont, notamment, les manias de la sidérurgie américaine. Alors, vous les avez cités pour quelques-uns. L'idée, c'était effectivement de renverser Roosevelt, de monter une armée contre ce président. Lui va refuser ça. Et il est incroyable, ce parcours. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des doutes, des certitudes, et on fait partie de ça, en fait. Mmh. On se demande comment c'est possible, dans la vraie histoire, d'avoir imaginé un tel complot.
Oui, alors, il y a un petit côté pied-niquelé, parce qu'on se dit, il y a un moment donné, on se dit, mais c'est quand même étrange, on va peut-être parler de Gerald Maguire, leur homme de main. On se dit, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? Butler, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont persuadés que c'est leur homme, les milliardaires. Parce que, c'est aussi un des intérêts de raconter cette histoire, c'est que depuis la fin du 19e siècle, l'impérialisme américain, en fait, s'est fait au profit des grandes firmes américaines. Des firmes, par exemple, agricoles, en Amérique centrale. C'est pas le seul but, mais il y avait toujours un motif quand même économique dans les guerres menées impérialistes par les États-Unis dans les années à partir de 1898 à Cuba et puis les Philippines, etc. Il y a eu une série de guerres. Et à chaque fois, on trouve Butler, ce général. Et donc, ils se disent, en fait, c'est notre homme. C'est notre homme. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Il fait la guerre là où il faut. Il le fait plutôt bien. Et donc, ce type qui a fait la guerre...
Il sert les intérêts américains.
Il sert surtout les intérêts financiers des milliardaires. Donc, ce mec qui en plus est un héros des vétérans. Donc si on rappelle ce que je disais tout à l'heure sur les vétérans qui sont dans un sentiment de tristesse, de ressentiment, de colère aussi, de drame personnel, si vous mettez ça et vous dites ben il y a un général qui peut leur dire « Marchez avec moi sur Washington », il n'y en a pas deux, c'est lui, c'est Butler. Et donc, ils vont essayer de l'attirer dans cette idée-là, qu'il peut prendre le pouvoir, qu'il est l'homme de la situation. Ils essayent de l'attirer, ils sont malins, en lui disant, non pas pour l'argent des fascistes ou pour l'argent des Wall Street, mais juste pour redonner aux vétérans leur grandeur et donc de les ramener à leur place. Bon, ça n'a pas marché, sans vouloir déflorer l'histoire, mais c'était pas loin de réussir. En tout cas, c'était pas une mauvaise idée d'aller chercher lui.
Il a refusé ce complot, il a même eu le courage de le dénoncer, ouais. Et de se dénoncer lui-même.
Ouais.
C'est ça qui est assez fou d'ailleurs, vous le citez à la fin, il se cite dans son autobiographie qui est sorti en 1935, hein, « La guerre est un racket »,« War is a racket
». Qui est un livre important, c'est en 1935, c'est un petit pamphlet, « War is a racket ». Et ça, il ne le savait pas, les milliardaires, qu'il était en train d'écrire ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que cet homme était en train de faire sa mue idéologique. C'est aussi ça qui m'a touché. C'est un vieux général, héros de toutes les guerres, et qui, parce qu'il part en retraite, se retourne sur son existence, et se rend compte à quel point il a été l'instrument, non pas de la grandeur de l'Amérique, mais des privilèges de certains. Et donc, ils ne le savent pas, personne ne le sait à ce moment-là. Vous avez les milliardaires qui se disent « c'est notre homme », en imaginant un homme qui est déjà plus le même, puisqu'il a commencé à faire sa mue idéologique et à rédiger ce livre, qui est cité tout le temps aux États-Unis encore aujourd'hui, parce que c'est un militaire qui dit tout le mal qu'il a pu faire, sans y penser, mais tout le mal qu'il a pu faire au nom des intérêts économiques.
Il dit « quand je repense à tout ça, je pourrais donner à Al Capone quelques conseils. Al Capone pouvait racketter trois quartiers, j'agissais sur trois continents. »
Et ça, c'est vraiment lui qui le dit,
Moi. Mais à la rigueur qu'il le dise, mais ce qui est fou, c'est qu'il a réussi à faire ça parce qu'il était soutenu par les hautes autorités.
Ah oui.
Et parce qu'il était, des missions, des demandes.
Il était un général aux ordres de l'armée américaine. Que les gens qui nous écoutent ne se disent pas « oh là là, c'est quoi ces délires complotistes ?» On sait très bien que les guerres américaines ont été menées pour des raisons qui n'étaient pas que politiques, qui étaient largement économiques aussi, et pas que idéologiques. Et donc oui, il a été le bras armé de cet impérialisme américain, sauf qu'il n'avait pas remarqué à quel point ce bras armé s'était retourné. C'est ça qui est, je trouve, assez ironique dans l'histoire, et qui fait que ça finit pas si mal que ça.
Bon, je vais pas tout raconter, c'est pas possible.
On a beaucoup raconté.
C'est très frustrant, mais c'est déjà pas mal. Ce qui est fou, c'est que personne ou presque n'a été inquiété en tout ça. Ni poursuivi. Parce qu'évidemment, les manias possédaient également la presse. Et ça revient aussi au contexte actuel, Thomas.
C'est sûr qu'il y a de ça, mais la raison principale, je crois, il y en a deux. La première, c'est que Roosevelt était très malin. Et il savait que, en laissant monter cette idée-là du complot qui serait un jour rendu public, la population américaine se retournerait contre les complotistes ou les conspirateurs. Et donc, il savait que ça lui serait favorable. Il a été réélu, 4 fois. Donc il sentait bien ça. Donc lui-même ne voulait pas faire de chasse aux sorcières. En gros, laissons monter ce mouvement qui, en fait, n'est pas populaire aux États-Unis et ça me profitera. Et puis surtout, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, parler de narratif, mais elle va complètement mettre sous le boisseau tout ce fascisme américain des années 30, parce que le livre est aussi un moyen pour moi de raconter cette Amérique-là. C'est pas que des milliardaires.
Qui finalement existent toujours.
Mais bien sûr. Et de raconter cette fascination pour le fascisme aux États-Unis dans les années 30 et années 20, mais c'est des centaines de milliers de personnes. Et je ne parle pas que du Ku Klux Klan. Il y a des centaines de milliers de personnes, voire des millions, qui embrassent cette idéologie-là. Sauf qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique a heureusement combattu, grâce aussi à Roosevelt, du côté des démocraties libérales. Et après-guerre, notamment dans le contexte de la guerre froide, l'Amérique, c'était le camp de la démocratie, le camp du bien. Et l'histoire officielle, le roman national américain, et le nôtre avec, parce qu'on était tellement dans cette orbite idéologique, a gommé cette partie de l'histoire. Alors, il y a un livre de Philippe Roth qui s'appelle « Le complot » qui raconte, de manière totalement fictive, ce qu'aurait pu être une Amérique fasciste. Quand les gens l'ont lu, ils se sont dit « mais c'est vrai ou c'est pas vrai ?» C'était pas vrai, mais ça aurait pu être vrai. Là, c'est vrai, ça aurait pu réussir, mais c'est vrai.
Dans cet ouvrage, vous nous ravivez la mémoire aussi, Thomas. C'est ça la force aussi de ces écrits sur le parcours de vie de certains acteurs de cette période qui a fait basculer effectivement vers des forces obscures dramatiques. Vous nous racontez par exemple Samuel Untermeyer. Ce dernier s'est opposé au Troisième Reich, fondant en 1933 la Ligue non sectaire anti-nazie pour défendre les droits humains. C'est important justement de redonner vie, de redonner corps à des personnes qui ont disparu, mais qui ont contribué à maintenir, entre guillemets, cette démocratie et l'importance d'avoir le choix de vivre en paix.
Rudyard Kipling disait « Racontez-moi l'histoire d'un fantassin, vous raconterez l'histoire de toute la guerre ». Je pense que c'est très important de raconter l'histoire des individus, en fait. Quand j'ai fait Puzzi sur le pianiste d'Hitler, l'idée c'était de raconter l'histoire d'un homme et à travers cet homme, de raconter toute la fascination que l'Allemagne avait pu éprouver envers Hitler. Je trouve que de raconter Untermeyer, raconter la naine qui est sur les genoux de J.P. Morgan, c'est une histoire folle, mais c'est 3 lignes. Mais je trouve que tout d'un coup, ça capte l'attention. Ou même, parce qu'on se balade en France, à un moment donné dans le roman, on est à Paris le 6 février 1934, Je raconte cette femme de chambre qui meurt à l'hôtel Crillon. Tout d'un coup, on se dit, ah oui, c'est ça aussi l'histoire. C'est pas que des grands mouvements avec des opinions publiques, etc., un peu déshumanisées. Mais je trouve que raconter la vie, parfois, en peu de lignes de quelques individus, ça nous permet d'être en empathie, de comprendre mieux les périodes, peut-être. Et c'est peut-être ça la force du roman par rapport à l'essai ou au livre d'histoire. Je ne nie pas du tout l'histoire, j'en ai fait plein. Mais le roman, ça a cette vertu-là. Et je trouve en plus, j'y pensais en venant, le roman, ça a une vertu dans un moment comme aujourd'hui. Vous avez peut-être lu Le Mage du Kremlin de Giuliano d'Empoli. Le Mage du Kremlin, c'est un roman, mais qui permet de comprendre totalement Poutine. Mais je trouve dans un moment comme aujourd'hui, où tout est fou, on est sur France Info, l'actu, elle est dingue, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que c'est le roman, l'imaginaire, qui peut rendre le mieux acte du réel. Ce qui est paradoxal, parce que on se dit plutôt c'est le réalisme qui permet de comprendre le réel. Mais le monde est tellement fou que si on a nos grilles de lecture, regardez, typiquement. En 2016, moi je pensais que Trump allait gagner la présidentielle. Parce que j'avais mes grilles de lecteur d'historien, je sais que normalement ça se passe comme ça. Un romancier aurait pu inventer la victoire de Donald Trump. Le monde est fou et il faut des romanciers pour le raconter. Mais le paradoxe, c'est parce qu'il est fou que les romanciers pourront raconter le monde tel qu'il va. C'est fou quand même.
Ce qui est étonnant, c'est que ce soit marqué roman, justement, ouais, Thomas. C'est tellement précis, ouais. C'est tellement documenté.
Il y a des choses inventées, hein. Vous ne savez pas, mais il y a des choses inventées.
Évidemment, ouais. Mais on est quand même...
Les faits sont exacts, il y a des archives que j'ai mises à la fin du livre, je ne peux pas m'empêcher, mais il y a des dialogues inventés, évidemment. Vous savez, Walter Benjamin disait, c'est quoi la différence entre un essai et un roman? Il disait, c'est la main du potier. Dans le roman, on voit la main du potier. Celui qui a fait le truc. Là, il y a la main du potier. Parce que je mets un peu de ma sensibilité. Alors, je dis jamais je, pas du tout. Mais dans les personnages. Pourquoi, quand je vous dis Butler, il me touche pour ça? Peut-être ça raconte des choses qui me concernent. Vous voyez, c'est ça, en fait. Là où, si j'avais fait un livre d'histoire sur ce qu'on appelle aux États-Unis The Business Plot, le complot de Wall Street, ça existe, hein. Il y a des livres d'histoire sur le business plot. J'aurais raconté tous les éléments. Et peut-être vous auriez été moins touché par le livre et vous auriez pas invité l'auteur pour le raconter. C'est aussi un moyen de raconter différemment l'histoire et peut-être de toucher un plus grand nombre. Dans un monde comme aujourd'hui, je ne parle jamais de Trump dans le livre, évidemment. Je ne parle pas de l'Amérique d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est évidemment que le lecteur se fasse son propre cheminement.
Le business plot, il a été justement, entre guillemets, la porte a été ouverte avec Butler. Hein. Il a contribué à ça. C'est assez fou. On sent le passionné que vous êtes, Thomas, de monter sur scène, là, justement, d'aller à la rencontre des gens. C'était une suite logique.
Un peu, parce que moi, j'étais prof d'histoire très longtemps. J'ai fait des livres. L'idée, moi, j'ai une espèce d'obsession, c'est de raconter des choses. Le récit, je trouve ça formidable. C'est archaïque. Hein. On prend son pouce, on écoute une histoire qu'on se raconte. J'espère que les gens qui nous écoutent, s'ils conduisent, ils prennent pas leur pouce. Mais ils écoutent ça et ils se disent, tiens, j'aime bien cette histoire, j'aime bien qu'ils nous racontent ça. Et effectivement, j'avais fait un livre qui s'appelait Little Rock 57 sur 9 élèves noirs qui sont les premiers à être rentrés dans un lycée blanc de l'Arkansas en 57. C'est très mal passé. Vous voyez, 9, je raconte l'histoire de 9 personnes pour raconter l'histoire de la ségrégation raciale. Et ça, j'en ai fait un roman, pas un roman d'ailleurs, un essai. Et maintenant, je le joue sur scène. On l'a créé avec un clarinettiste, Xavier Bussy, à Avignon, il y a 2 ans. Et là, la tournée commence. Et donc, j'ai très hâte d'aller raconter cette histoire. C'est aussi faire œuvre de pédagogie, de raconter une histoire. Mais là, c'est du théâtre. Et on est, très. Moi, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Donc, il y a plein de choses.
À chaque fois qu'on vous écoute ou qu'on vous lit, il y a toujours ce besoin, effectivement, de rester vigilant. C'est un appel à la vigilance et à ne pas bafouer l'histoire telle qu'elle a vraiment été vécue et telle qu'elle a existé.
On a un devoir de vigilance. Et en tant qu'historien, que prof d'histoire, que vulgarisateur d'histoire, on a un double devoir qui est d'alerter. Quand je fais ma pièce de théâtre sur la ségrégation raciale, je ne vais pas dire « c'est comme l'Amérique d'aujourd'hui ». Quand je fais ce roman, je ne vais pas dire « c'est comme l'Amérique d'aujourd'hui ». Je pense que, déjà, l'histoire est assez puissante pour ne pas avoir à prendre les gens pour des idiots et à leur dire « ah, en fait, je laisse aussi les gens faire leur chemin ». Mais l'idée, c'est moi de raconter, après c'est un choix politique, de raconter cette histoire plutôt qu'une autre. Je choisis ce que je raconte. Mais effectivement, on doit être vigilant et regarder ce qui s'est passé, se croit le meilleur moyen, peut-être pas de reproduire des erreurs, parce que malheureusement, je crois qu'on n'apprend jamais de ses erreurs, au moins qu'on sache où ça a pu conduire.
Donc l'écriture, la scène, c'est ce qui vous permet de continuer le dialogue avec ces élèves que vous avez quittés.
Un peu, ils ont vu. C'est pas faux, surtout qu'il y a plein de représentations scolaires au théâtre. Mais oui, en fait, après, les élèves, la salle est plus grande, mais on fait, c'est comme ça. Mais vous faites le même boulot, on fait la même chose. On essaie de raconter des choses, d'être des liens, des relais. Je reste persuadé que ce qu'on aime beaucoup en tant qu'être humain, c'est apprendre des choses. Apprendre. Comprendre, c'est bien, mais apprendre, c'est toujours fantastique.
Donc Thomas Snegaroff aime apprendre, il aime être curieux aussi. Hein.
Ouais.
Merci beaucoup, Thomas, d'être passé dans Le Monde Élodie sur France Info. Ça s'appelle La Conspiration. C'est vraiment passionnant.
Merci.
Et des fois, ça fait froid dans le dos, mais c'est important de le mettre entre toutes les mains. C'est sorti chez Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci, Élodie.